Frères et sœurs bien-aimés, c'est avec une hauteur toute angélique que nous avons commencé dimanche dernier notre méditation estivale. Elle porte sur la prière qui nous emporte vers le Très-Haut, déployant les ailes d'un archange alors que nous lui empruntons ses propres mots. Je vous salue. Saluons la Reine du Ciel, la Bienheureuse Vierge Marie, et demandons-lui ses lumières pour approfondir de ses quelques paroles, les grands mystères. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Dimanche dernier, en nous mettant à l'école du docteur évangélique saint Thomas d'Aquin, nous avons pris la mesure de notre infériorité face aux anges. En cela, nous avons éclairé le renversement qu'opère Gabriel en saluant Marie. Reprenons sa conclusion qui fut également la nôtre. Il ne convenait donc pas que l'ange s'inclinât devant l'homme jusqu'au jour où parut une créature humaine surpassant les anges par sa plénitude de grâce, par sa familiarité avec Dieu et par sa dignité. Cette créature humaine fut la bienheureuse Vierge Marie. Pour reconnaître cette supériorité, l'ange lui témoigna sa vénération par ses paroles. Je vous salue. Cette supériorité de la Sainte Vierge trouve alors un écho tout particulier dans les paroles qui prolongent cette salutation. La plénitude de grâce, par laquelle la Vierge dépasse même les anges, devient un nom propre. Là où sa familiarité avec Dieu est constatée, le Seigneur est avec vous. Sa dignité est attestée, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Méditons en ce dimanche ce nom plein de grâce et approfondissons-en les privilèges. Lorsque l'archange s'adresse à la Sainte Vierge, il n'emploie pas ce prénom Marie, qu'il utilisera par la suite. Il lui adresse ce nom divin désignant tout son être, comme sa vocation, je vous salue, pleine de grâce. En effet, dans la révélation biblique, il est des noms qui ne sont pas de simples appellations. Souvenez-vous que le nom de notre patriarche Moïse signifie « sauvé des eaux », non seulement parce qu'en nouveau-né, il échappe à la noyade, flottant dans un panier sur les eaux du Nil, mais plus fondamentalement, parce que ce nom désigne déjà sa vocation, il est celui que Dieu a choisi pour sauver son peuple des eaux de la mer Rouge. Si ces eaux se referment sur les armées en furie de Pharaon, elles ouvrent au peuple de Dieu le chemin de leur libération vers la terre promise. En amont de la mer Rouge, Moïse avait reçu le nom même de Dieu dans le buisson ardent. Il s'y présentait comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais avec audace, Moïse lui demande quel est son nom. Dieu lui répond alors par cet intemporel que notre conjugaison française, si subtile, ne peut traduire. Je suis. Je suis qui j'étais, je suis qui je suis, je suis qui je serai. Ce nom, s'il désigne tout l'être divin, révèle également sa vocation. Je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple. Il exprime son éternelle présence à nos côtés. Je suis qui je me révèle être auprès de vous. C'est ainsi que le Verbe de Dieu revendique ce nom dans les évangiles et y développe sa vocation. Je suis la porte, Je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis la vigne véritable ou encore je suis le bon berger. Par respect pour la sainteté du nom divin, le peuple de Dieu s'interdit de prononcer ce nom. Là où le troisième commandement nous prescrit de ne pas invoquer en vain le nom de Dieu, la première demande que le Seigneur pose sur nos lèvres dans le Pater le concerne, que votre nom soit sanctifié. C'est ce qu'accomplit la Sainte Vierge. Lorsque ne pouvant plus contenir une joie aussi dévorante que débordante, son esprit exulte en Dieu alors que son âme l'exalte, saint est son nom, déclare-t-elle au cœur du Magnificat. Son nom, c'est-à-dire tout son être est saint. Et voici qu'il établit sa demeure dans le sein de celle qui devient mère, tout en demeurant vierge. La sainteté divine dont elle se trouve investie par sa vocation maternelle est déjà contenue dans ce nom que l'archange, en messager du Dieu trois fois saint, lui adresse, pleine de grâce. À l'école de saint Thomas d'Aquin, approfondissons cette dénomination. Elle désigne premièrement l'âme de la Sainte Vierge, possédant la grâce divine en plénitude. Mais pour quelle raison Dieu donne-t-il sa grâce? Nous interroge l'ange de l'école. Dieu nous donne sa grâce pour faire le bien et pour éviter le mal. C'est pourquoi, en conclut-il, à ce double point de vue, la bienheureuse Vierge Marie fut favorisée de la grâce la plus parfaite car elle évita le péché mieux que tout autre saint après le Christ. Cependant, il nous faut aller plus loin encore. Car si elle est pleine de grâce, celle-ci ne lui fait pas seulement éviter le péché, elle l'en préserve, et cela dès le ventre de sa mère. Nous l'avons fêté mercredi dernier, Sainte Anne. C'est cette vérité de foi que proclame le bienheureux pape Pie IX le 8 décembre 1854. La bienheureuse Vierge Marie, dès le premier instant de sa création, a été, par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tâche du péché originel. Pour le Bigourdan, une telle grâce, un tel privilège, résonne avec un écho tout particulier, l'écho de la grotte de Massabielle. À partir de la troisième apparition, le 18 février 1858, Sainte Bernadette demande à cette belle dame de bien vouloir lui révéler son nom. Mais si la dame lui parle pour la première fois ce jour-là, elle ne répond pas encore à sa demande. C'est en date du 25 mars, 9 mois avant Noël, que la dame choisit de lui révéler. Ce jour-là, l'Église fête l'Annonciation, faisant mémoire de la salutation angélique de la grotte de Nazareth, où lui apparaît l'archange Gabriel. À la grotte de Massabielle, la Sainte Vierge semble répondre à cette salutation autant qu'à la proclamation de l'Église « Je vous salue, pleine de grâce. Je suis l'Immaculée Conception. » Si la dame reprend les mots mêmes de l'Église prononcés 4 ans plus tôt, elle insiste en notre patois « Que soy era » et « Moi, je suis l'Immaculée Conception ». Ce nom pleine de grâce désigne tout son être. C'est ainsi qu'elle peut dire qu'elle est l'Immaculée Conception. Voilà que le voile avec lequel nous fêtions jusqu'alors la Sainte Vierge comme patronne principale de notre chère Bigorre, est levé. Le mystère entourant la nativité de la Sainte Vierge a révélé son nom. Revenons à l'école de Saint Thomas d'Aquin, car si nous venons de considérer le privilège de la Vierge Immaculée en ce qu'elle demeure complètement étrangère au mal, il précisait que Dieu nous accorde sa grâce pour faire le bien, non pas seulement pour éviter le mal. Ainsi, cette plénitude de grâce caractérisant l'âme de la Sainte Vierge se traduit-elle en ce qu'elle accomplit les œuvres de toutes les vertus. En cela, la Reine des anges se révèle à nos yeux émerveillés ce matin comme la Reine de tous les saints. Écoutons en cela le docteur Angélique. Les autres saints excellèrent en quelques vertus. Celui-ci fut humble, celui-là fut chaste, cet autre miséricordieux. Aussi les offre-t-on comme modèle de ces vertus particulières. Mais la Bienheureuse Vierge, elle est le modèle et l'exemplaire de toutes les vertus. Après avoir examiné cette plénitude de grâce sur l'âme de la Vierge, saint Thomas en vient deuxièmement à considérer les conséquences sur sa chair et sur tout son corps. Puisque ce nom divin désigne tout son être comme sa vocation, il ne peut laisser de côté son corps. Ainsi, saluant la pleine de grâce, l'ange lui précise-t-il : Vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que vous allez enfanter et concevoir un fils. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Concevoir et enfanter. La Vierge devient mère et mère de Dieu. Elle donne chair à un fils qui devient par elle homme, tout en demeurant Dieu. Il est, pour anticiper les termes de Sainte Élisabeth que nous méditerons dimanche prochain, le fruit de ses entrailles. Ainsi, saint Thomas conclut-il, l'âme de la bienheureuse Marie possède une plénitude de grâce telle qu'elle rejaillit de son âme sur sa chair et que de cette même chair, elle conçut le Fils de Dieu. Alors le constat angélique, faisant suite à la révélation de ce nom, s'éclaire, le Seigneur est avec vous. Il est avec vous comme il n'est avec aucune autre créature, puisque vous le portez en votre chair et que vous devenez pour l'éternité sa sainte mère. Ce rejaillissement de son âme sur sa chair s'étend alors à tout son corps. C'est pourquoi au privilège de son immaculée conception s'ajoute celui de sa glorieuse assomption. Préservée du péché originel, la pleine de grâce se trouve par la même exempte de la corruption du tombeau. Elle n'attend pas comme les saints et l'ensemble de nos fidèles défunts la résurrection de la chair au dernier jour. Elle est élevée avec son corps à la gloire du ciel. C'est cette vérité de foi que proclame le vénérable pape Pie XII le 1er novembre 1950. Beaucoup parmi vous étaient encore tout jeunes. Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Ce mystère, celui du mois d'août qui approche, s'éclaire par cette déclaration de saint Alphonse de Ligorie que ne manque pas de citer le Saint-Père. Jésus n'a pas voulu que le corps de Marie se corrompît après sa mort, car c'eût été un objet de honte pour lui. Si sa chair virginale était tombée en pourriture, cette chair dont lui-même avait pris la sienne. C'est ainsi que, pleine de grâce, la Mère de Dieu et notre Mère s'élève en son corps et en son âme C'est sous ce mystère qu'elle veille sur le peuple de France depuis que notre roi Louis XIII lui a consacré son royaume. Invoquons-la du haut du ciel. Notre-Dame de l'Assomption, patronne de France. Notre-Dame de Lourdes. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Thomas d'Aquin. Amen.